Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Les grandes affaires criminelles de nos régions, les grands procès, les cold cases, des témoignages, des décryptages, des récits, crimes et mystères, des Alpes jusqu'à Marseille, c'est le podcast Faits divers du Dauphiné libéré.
C'est une histoire qu'on raconte encore à Montségur-sur-Lauzon, une petite commune de la Drôme. Et même si elle s'est passée il y a maintenant plusieurs siècles et que le temps l'a transformée en légende, elle fascine toujours. Ce 25 juin 1715, elle était l'objet de toutes les attentions. Vêtue de sa longue robe en soie, parée de ses plus beaux bijoux, Lucie de Pracontal attirait tous les regards. Cette journée était la sienne. Elle célébrait ses noces avec le vicomte de Quinsonnas. Mais cette union ne se passa pas comme prévu. Au milieu de la fête, la jeune Lucie disparut mystérieusement. On ne la retrouvera que 30 ans plus tard. C'est une belle journée d'été au château de Montségur-sur-Lauzon. Depuis le lever du jour, on s'affaire pour organiser le mariage de la fille des propriétaires du lieu, la noble famille Pracontal. Et tout se doit d'être parfait, car on attend du beau monde, les invités seront nombreux. On prépare également la future mariée. On coiffe ses cheveux blonds, on l'habille d'une robe bleue très claire, presque blanche, et on pare son corset des diamants et perles appartenant à la famille depuis plusieurs générations. La jeune Lucie a tout juste 18 ans et s'apprête à épouser le vicomte de Quinsonnas. Les deux jeunes gens sont fous amoureux et cette union fait également le bonheur de leur famille. Les convives sont là, une ambiance joyeuse et festive anime le château, tout se déroule à merveille. Dans la chapelle, la messe vient de se terminer, et avant le banquet, tout le monde se lance dans une grande partie de cache-cache, ou plutôt de cligne-musette comme on l'appelle à l'époque. Et dans l'immense château des Pracontal, les cachettes ne manquent pas. Lucie compte bien trouver le meilleur endroit pour gagner. Pendant près d'une heure, tout le monde court de partout, les rires et les cris de joie emplissent le domaine. Puis vient l'heure de se regrouper. Une seule personne manque alors à l'appel, la jeune mariée. Se dit qu'elle n'a pas entendu la fin de la partie. On refait alors un tour dans le château pour la prévenir. Toujours pas de Lucie dans les parages. L'affaire commence à devenir sérieuse. On se met à fouiller en détail le jardin, ouvrir toutes les portes, inspecter le grenier, les souterrains, les écuries, les remparts. Et Lucie reste introuvable. La panique gagne l'assemblée. Tout le monde se mobilise. Son mari crie son nom, sa mère, éplorée, supplie le personnel de lui ramener sa fille. Les paysans inspectent les fossés et les alentours en vain. Cela fait maintenant plusieurs heures que la mariée ne réapparaît pas. Alors, on élargit les fouilles encore au-delà du château. Bâti au Xe siècle, il est au sommet d'un coteau rocheux perché à 185 mètres d'altitude. Madame de Pracontal se persuade que sa fille s'est trop éloignée et, emportée par l'euphorie du jeu, a glissé dans le ravin. Après tout, l'accident est plausible. Deux personnes ont déjà perdu la vie à cet endroit. En contrebas, on écarte alors les broussailles et on regarde dans le lit de la rivière. Les recherches ne donnent rien. Aucun signe d'une chute, aucune trace de sang, aucun lambeau de robe. On apprend que des bohémiens campent dans les environs. Auraient-ils pu enlever Lucie ? La maréchaussée de Saint-Paul, Trois-Châteaux, se rend sur place. Après un interrogatoire musclé et une enquête, il semble être innocent. Personne n'a rien vu ni entendu. La nuit tombe. Puis plusieurs jours passent. Les chances de retrouver la jeune mariée en vie disparaissent. Ses parents, dévastés par le chagrin, quittent le château. En partant, sa mère fait ériger une croix en pierre au bord du ravin en mémoire de sa fille. Ils partent vivre à Valence, la marquise entre en retraite et se dévoue aux œuvres pieuses et charitables. Pendant 30 ans, la bâtisse est inoccupée, tombant peu à peu en ruine. Seul le gardien reste. Il vit désormais avec sa famille et son chat. Il raconte, de temps à autre, aux voyageurs qui s'arrêtent au château, l'histoire de la mystérieuse disparition de Lucie. Le 17 septembre 1747, il accueille le vicomte de Rabastens. Âgé d'une vingtaine d'années, il visite le Dauphiné avec une poignée d'amis et décide de faire une halte à Montségur-sur-Lauzon. Accompagné par le gardien, les jeunes gens visitent la demeure, délabrée par endroits, et se font conter le drame qui a frappé les Pracontal. Ce jour-là, le temps est encore très ensoleillé et la chaleur est écrasante. Dans la soirée, le ciel se couvre et un orage éclate. Tout le monde se réfugie alors à l'intérieur. Pour patienter jusqu'à la fin de la tempête, le vicomte de Rabastens et ses compagnons décident de lancer une partie de cache-cache. À croire que le destin de la malheureuse Lucie ne les a pas effrayés. Comme elle, le vicomte prend le jeu très au sérieux. Il arpente chaque couloir, pièce et angle du château et trouve un recoin dans lequel il se glisse. Il a à peine le temps de s'accroupir qu'il entend un de ses amis arriver dans sa direction. Il se colle à la paroi, tente de se faire le plus petit possible, essaye de disparaître entre les vieilles pierres. C'est alors qu'il sent quelque chose bouger dans son dos. Sous sa pression, le mur est en train de s'ouvrir. Et découvre alors que derrière lui se dissimule une pièce secrète. Piqué par sa curiosité, il avance de quelques pas. Mais à la seconde où il lâche la porte, elle se referme lourdement derrière lui. Il entend son ami s'approcher. Il se trouve juste de l'autre côté. Fier d'avoir trouvé une cachette indécelable, il ne fait aucun bruit et laisse son camarade s'éloigner. À coup sûr, cette partie de Quaigne-Musette, c'est lui qui l'emportera. Mais bientôt, plongé dans l'obscurité, il réalise qu'il n'y a ni serrure, ni poignée sur cette porte secrète. Comment va-t-il faire pour ressortir ? Il parcourt à tâtons l'étendue de la pièce. Elle est étroite, et tous les murs sont lisses, sans aspérité. Il finit par sentir sous ses doigts une petite cavité. Il y enfonce son index. Un son sourd retentit, et la paroi devant lui s'ouvre. Une nouvelle pièce abandonnée s'offre à lui. Sans d'autre choix, il s'y engouffre, s'enfonçant encore plus profondément dans les entrailles du château. Et ce qu'il va découvrir va lui glacer le sang. Cette salle est plus grande que la première. Il semble y avoir quelques meubles recouverts d'une épaisse couche de poussière. Une armure métallique est accrochée au mur, une bibliothèque branlante est posée contre, une vieille table en chêne est partiellement cachée par le dossier d'un fauteuil. Malgré la pénombre, il distingue une forme posée sur ce siège. Il s'approche doucement, ouvre grand ses yeux et se rend compte horrifié qu'il se trouve face à un cadavre, celui de Lucie de Pracontal, encore habillée de sa robe de mariée et de ses bijoux qui ont terni avec le temps. Paralysé par la peur, le jeune noble réalise que comme Lucie 30 ans auparavant, il se retrouve pris au piège, emmuré vivant dans les oubliettes du château. Saisi de panique, le vicomte perd ses moyens. Il hurle à l'aide, s'époumonne, tambourine les murs pour trouver une échappatoire. Rien à faire, ce cachot sera sûrement son tombeau. Désespéré, il lève les yeux au ciel et observe l'unique ouverture. Un mince soupirail verrouillé par des barreaux perce le plafond. Un filet de lumière s'en échappe. Il déplace la table et grimpe dessus. Il attrape les barreaux qui ne bougent pas d'un millimètre. Impossible de passer par là, l'espace est bien trop étroit pour que le jeune homme puisse s'y extirper. Pourtant, il y en a bien qui y arrivent. Après plusieurs heures coincées dans cette oubliette, le vicomte aperçoit une ombre se faufiler par le trou. Deux petits yeux le fixent alors. Est-il déjà en train d'halluciner ? Pourtant, ils sont bien face à lui et se déplacent dans la pièce. Le vicomte n'est pas encore emporté par la folie. Ses yeux sont bien réels. Ils appartiennent au chat du gardien. Le jeune homme comprend immédiatement qu'il est sa seule chance de s'en sortir. Mais avant de réfléchir à une stratégie, il s'élance sur l'animal qui, effrayé, repart à toute vitesse. Rageur, il se retrouve de nouveau seul, la dépouille de la mariée à ses côtés. Les heures passent, la faim et la soif le gagnent doucement. Nous sommes déjà le lendemain. Épuisé, il sent ses forces le quitter. Combien de temps encore son calvaire va-t-il durer ? Après 2 jours de jeûne, un nouveau bruit attire son attention. Le chat est revenu lui rendre visite. Cette fois-ci, pas question de laisser passer sa chance. Il s'avance doucement, pas après pas, et lorsqu'il est tout près du félin, lui bondit dessus et parvient à lui nouer son foulard autour du cou. À la minute où il est libéré, l'animal s'enfuit de nouveau et retourne vers son maître. Mais en passant devant les compagnons du vicomte, ces derniers comprennent que leur ami, encore en vie, n'est pas loin. Ils suivent alors le chat et découvrent le soupirail. Le vicomte est bien là, évanoui sur le sol. Il se met à chercher la porte. Mais par où a-t-il bien pu passer? Impossible de mettre la main sur le passage secret. Le groupe d'amis s'arme alors de piques et de pioches et retourne au soupirail pour y arracher les barreaux. Ils arrivent à agrandir l'ouverture et y glissent une échelle. Le vicomte, inconscient, est extrait jusqu'à la surface. Il reprend peu à peu ses esprits, encore sous le choc de ce qu'il vient de vivre. Malgré lui, il vient de retrouver Lucie de Pracontal, 30 ans après cette fatale partie de cache-cache. Il aura donc fallu attendre plus de 30 ans pour percer le mystère de la disparition de Lucie. Mais est-ce que le château de Montségur-sur-Lauzon cache d'autres secrets? Gisèle Clément, la présidente de l'association de sauvegarde des sites et du cadre de vie de la commune, nous raconte l'histoire de ce lieu chargé de légendes.
Ce château avait été construit donc en 737. Il a été occupé par le baron des Adrets. Et alors ce baron des Adrets, c'était quelqu'un qui était cruel, qui était mauvais, qui était protestant et qui se bagarrait avec les catholiques, bien sûr. Enfin, c'était le truc. Et donc, apparemment, pour pouvoir s'échapper si quelqu'un rentrait dans son manoir, il avait fait installer ce cachette. C'était un mur qui, suivant où on appuyait, qui s'ouvrait, bon, ça, et puis après, ben, vous ne pouviez plus en sortir. Enfin, vous en sortiez si vous saviez où il fallait appuyer, quoi. C'était, voilà. Donc, ça viendrait de là, et ce serait là que Lucie se serait cachée et aurait appuyé malencontreusement sur le bouton ou sur l'espace qu'il ne fallait pas ne pas appuyer et qui serait resté enfermé.
Donc, il y avait un moyen de re-ressortir.
Alors, il y avait un moyen, c'est-à-dire que pour le baron des Adrets, il y avait un moyen d'en ressortir, il savait son moyen. Alors après, il y avait eu une autre histoire, parce qu'il y avait un alchimiste aussi qui serait là, qui ferait des essais, donc il se serait mis là-dedans. Mais bon, c'est un peu comme la légende de Lucie. Mais apparemment, le baron des Adrets, c'est sûr, lui, il y a habité dans ce château, hein, ça c'est sûr, dans ce donjon. Parce qu'au départ, c'était un donjon qui avait été construit.
D'accord.
C'est quelque chose d'assez petit, hein. Voilà, et ça a été construit, la chapelle a suivi après au XIe siècle, quoi, la chapelle là, de Saint-Félix qui est à côté. Ça a tout été fait à peu près. Le château a commencé à se construire en 737. À part cette cachette, il n'y avait pas grand-chose. Hein. C'était bon, les habitants étaient dispersés le long du Lèze et eux, ils avaient construit ce donjon. Donc, il a été habité par les Adhémars de Monteil. C'est eux qui l'auraient fait bâtir. Et c'était un petit. C'était pas quelque chose d'important. Hein. Après, plus tard, le château, mais alors plus tard, dans les années 50, il y a un ermite qui est venu s'installer, là, les gens l'appelaient le père Ménard, donc qui s'était installé et qui faisait visiter le château et qui racontait des choses.
D'accord.
Et les gens venaient le voir. Moi, je me rappelle, étant gamine, j'habitais Valréas, et j'avais une copine qui habitait Montségur, j'étais venue pour la fête du village. Et quand on montait au château, il fallait pas qu'on trouve le père Ménard parce qu'on en avait peur, quoi, vous voyez. Voilà.
Et aujourd'hui, le château, il en reste quoi?
Rien. Il reste un rempart où il y a l'étoile du Félibre, là, qui est implantée dessus, donc des poètes provençaux. Et puis, il y a la chapelle, quand même, hein, qui a été assez restaurée et qui est encore en bon état. C'est là où on fait quand même. Bon, elle est désacralisée, cette chapelle. Mais on fait. Parce que avant, c'était la chapelle du. C'était l'église du village. Parce que le village de Montségur était autour. Les gens, après, sont venus se mettre autour du château suite aux invasions qui pouvaient se passer dans toute la vallée du Rhône. Donc, c'était l'église du village. Et puis, les gens sont partis dans la plaine. Hein, quand toutes ces invasions sont terminées, sont partis dans les plaines. Et donc, l'église était un petit peu abîmée. Et donc, ils l'ont désacralisée. Et, parce qu'à Montségur, on a quatre chapelles. Donc, les sacrements sont partis à la chapelle Saint-Jean avant d'aller dans l'église qui a été construite beaucoup plus tard. Donc, on a encore, à l'heure actuelle, la chapelle où on fait des concerts, où on fait pas mal de choses dedans, pour faire vivre le vieux village.
Et est-ce que l'histoire de Lucie, elle attire des visiteurs, des curieux?
Oui, elle attire les curieux. Bon, alors, il y a ceux qui sont très intéressés par tout ce qui est ancien temps et qui ont lu des tas de choses. Et puis, par aussi les informations qui ont pu être données. Voilà, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui nous parlent de la légende de Lucie. On avait fait, en plus, à une époque, on faisait du théâtre aussi, là-haut, et donc on avait joué deux ou trois fois la légende de Lucie. Bon, les gens ne montent pas forcément, parce que bon, il y en a qui montent pour voir l'église, la chapelle romane, hein, c'est sûr. Mais bon, Lucie, ça fait partie de leurs envies de savoir. L'autre jour, j'ai un monsieur qui m'a dit, bon, ben alors, vous allez m'expliquer maintenant, c'est vrai ou pas? Ben, j'ai dit, écoutez, monsieur, c'est une légende. Je n'y étais pas. je n'étais pas née. Donc, chacun prend ce qu'il veut dans une légende, garde ce qu'il veut et se fait sa propre estimation de l'histoire. La version que j'ai lui aussi, c'était que c'était le jour de son mariage, elle n'aurait pas joué à cache-cache. Elle serait partie avec des copines ramasser des fleurs. Enfin bon, je ne sais pas. Alors le coup du cache-cache aussi, ça m'a bien fait rire là, quand j'ai lu un truc, parce que bon, l'ancien président m'avait donné pas mal de papiers. C'était aussi que quand il y avait des fêtes comme ça, les jeunes aimaient bien jouer à cache-cache parce que quand ils étaient dans les fourrés, il pouvait arriver des choses qu'ils ne pouvaient pas faire devant les parents. J'avais trouvé ça rigolo. La pauvre mariée, bon, si elle n'a pas consommé son mariage, et on ne l'a jamais retrouvée.
Après, on l'a retrouvée un peu tard, on va dire.
On l'a retrouvée un peu tard, elle était sèche, la pauvre. Et son futur s'était tué, était parti à la guerre et était mort à la guerre. Dans la légende, j'ai lu un truc, c'est qu'il y avait des gitans qui étaient des bohémiens.
Des bohémiens, oui.
On ne disait pas tellement des gitans. Des bohémiens qui étaient dans le coin, donc on s'est dit c'est les bohémiens qui l'ont enlevé pour prendre ses bijoux. Et puis finalement, ben, les bohémiens, non, la marquise, elle a dit non, c'est pas possible, ça peut pas être ça. Et une des bohémiennes lui avait dit qu'elle retrouverait sa fille un jour. Donc 35 ans après, elle l'a retrouvée, mais malheureusement...
Elle n'a pas précisé en quel état.
Elle n'avait pas pu lui préciser si elle serait vivante ou morte. Voilà ce que j'ai lu sur mon papier à moi. Donc voilà, elle a bien été retrouvée, mais bon, pas comme elle aurait aimé la retrouver.
La mariée en murée vivante n'a pas fini d'alimenter les fantasmes. Histoire vraie ou pure légende, seules les ruines du château détiennent la réponse.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.